Est-ce qu'il y a des questions? Je ne veux pas insister trop longtemps là-dessus, j'ai peur que ça me fatigue. D'autre part, c'est évidemment très important, c'est le fondement, vous voyez, sur lequel on, pratiquement on revient tout le temps. Et la petite erreur là-dessus, c'est qu'immédiatement, il y a d'immenses conséquences. C'est évident que si on ne conçoit absolument pas un concept analogique, et si on ne saisit pas comment nous pouvons atteindre ce concept analogique, ben on est coincé. Alors on reste une pensée catégoriale, et restant une pensée catégoriale, on reste dans l'université. Et restant dans l'université, vous voyez, l'intelligence, ça ne va pas très loin. Ça ne va pas très loin. Ça fait un aspect descriptif, toujours descriptif. Qu'est-ce qui permet à l'intelligence de dépasser? Alors je reviens pour que vous voyez bien, mais rapidement, parce que je ne veux pas rester beaucoup de temps là-dessus. Je ne veux pas imaginer qu'il y a encore un peu de pain sur la planche. Il faut avancer, disons. Parce qu'on pourrait rester ici maintenant. Quand on est concept d'être, on peut y rester assez longuement et voir tout ce qui est impliqué dedans. Alors, ce que je veux dire, pensée catégoriale. Je crois que tout le monde peut arriver à saisir ce que c'est que cela. Ce sont les déterminations limitées que vous voyez dans les réalités que vous expérimentez. Sujet. La détermination essentielle, la qualité, et ainsi de suite. Pensez catégorique. À ce niveau-là, je peux décrire. Je décris. Pensée catégorielle. Comment dépasser la pensée catégorielle? L'induction. C'est pour ça que l'induction a un tel but. L'induction aristotélicienne, pas l'induction de Bacon. L'induction. L'induction va permettre de dépasser la pensée catégorielle. Pourquoi? Parce que à partir de l'expérience, grâce à l'interrogation, l'intelligence va pouvoir saisir les principes propres et les causes propres. Nous avions vu tout à l'heure. Les principes sont un au-delà de la catégorie. C'est bien évident. J'espère que c'est évident pour tout le monde. Là. Oui.
Est-ce que dans le jugement explicite qui va permettre après de se poser la question qu'est-ce que l'être, on n'est pas ça déjà une
interrogation? Oui, déjà dans l'interrogation, parce que j'ai dit que l'interrogation impliquait une petite aspiration.
Oui, je veux dire le jugement d'existence.
Non, on ne le saisit pas tout de suite. On le saisira après. Il ne dépassera pas tout de suite. Je prends exprès ça. Comment faisons-nous le dépassement? Vous voyez? On ne fait pas le dépassement. Le jugement d'existence en lui-même, ça ne me suffit pas. Il contient la possibilité d'un dépassement. Mais ce dépassement s'explicite grâce à l'induction. C'est l'induction qui l'explicite. Et alors à ce moment-là, je suis au-delà des catégories. Vous voyez? Donc il y a une petite inspiration là, avec l'interrogation. Une petite inspiration qui permet ce dépassement. Mais ce n'est pas dans le prolongement de l'intuition présente dans l'interrogation que je vais faire le dépassement. Ce dépassement intuitif de l'interrogation, c'est un dépassement des catégories, c'est sûr, c'est un dépassement. Mais c'est un dépassement qui n'est pas encore parfait, qui reste une attente. L'inspiration est toujours une attente. Quand vous êtes inspiré, vous êtes en attente. Vous êtes comme le chien de garde en face du gibier qui est dans le buisson, comme dit Platon. Alors, dès que vous dites Platon, vous comprenez le chien de garde, enfin, le chien de chasse, il y a quelque chose d'un peu digne. Ce qui est platonicien. Alors il est là en face du chien, en face du buisson, il est en arrêt. Dès que vous interrogez, vous êtes en arrêt. Dès que vous êtes en inspiration, vous êtes en arrêt. Suspendu, vous attendez. Vous attendez qu'il sorte. Alors l'interrogation fait sortir le gibier de l'expérience. Et le gibier, c'est le principe propre. Quelquefois c'est un faisan, quelquefois c'est un lierre, quelquefois c'est un petit lapin. Ça dépend, c'est des principes propres. Mais c'est à partir de l'expérience que vous interrogez et vous faites sortir le principe propre. Et dès que vous avez la saisie de ce principe propre, vous êtes au-delà des catégories. Vous réfléchissez sur ces principes propres et vous découvrez, alors à partir de cette réflexion des principes propres, vous découvrez ces rationnels qui fondent radicalement dans la réalité vos concepts d'énergie. Il faut très simple. Mais c'est très simple quand vous l'avez saisi, comme toujours. Tant qu'on ne l'a pas saisi, on dit c'est nébuleux, on ne voit rien du tout. Mais c'est quand même simple dans le sens que l'expérience, tout le monde voit ce que c'est. L'expérience, tout le monde voit ce que c'est. Il fait l'expérience de ce qui est mieux. L'expérience de ce qui est mieux. L'expérience du travail, tout le monde fait cette expérience-là. Et quand je fais l'expérience du travail et que j'ai décrit l'expérience du travail, je la décris au niveau des catégories. Mais il est évident que le jugement d'existence présent dans cette expérience va lui permettre un dépassement. S'il n'y avait pas le jugement d'existence, il n'y aurait pas de dépassement possible. Donc c'est la possibilité du dépassement. On verra tout le reste du jugement d'existence après. Ici, je veux simplement saisir comment, grâce à l'induction, il y a ce dépassement par la saisie des principes propres. La réflexion sur les principes propres me permet d'avoir certains concepts analogiques. Ces concepts analogiques ont ceci de tout à fait particulier, c'est qu'ils n'impliquent pas en eux-mêmes de limites. Ils ont une signification qui fait qu'ils ont une compréhension qui va de pair avec leur extension. On ne peut saisir les rationnels qu'après avoir saisi les principes. Vous n'y allez pas avant.
Vous
ne
pouvez pas avoir un certain
concept. Non, pas du tout. Alors là, vous êtes. 40, comme disait le vieux Père Montané, c'est à 40 degrés de fièvre qu'on a le concept d'être. Parce qu'on voit un petit nuage. C'était un. Extraordinaire. Il répond. Oui. Alors, si vous êtes éveillé, vous dites papillon, et si vous êtes un peu dans le rêve, l'être. Oui, c'était la fameuse chose, vous savez, quand on discutait avec Raïssa et Maritain, je l'ai fait plusieurs fois, alors je peux le dire, on discutait ferme, alors, il y a un chat. Alors vous disiez, mais non, chat, regardez, c'est un chat, regardez. En réalité, quand vous voyez un chat, vous dites c'est un chat, vous restez au niveau catégorial. C'est un chat. Là, vous pouvez réfléchir et dire ce chat existe. C'est curieux. Il existe comme un chameau existe. Il existe comme une petite bête du bon Dieu existe. Il existe comme j'existe, moi, ça. Il s'est cru, j'existe avec le chat. Là, on commence. On commence à se poser qu'il y a un problème d'un dépassement. Je n'ai pas encore explicité. Et j'interroge, qu'est-ce que c'est que cet être qui est commun? Alors, le petit pouce, là, l'aile qui pousse. L'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'être? Et quand vous dites qu'est-ce que c'est que l'être, vous ne savez pas encore ce que c'est. Donc vous restez encore dans quelque chose de confus. Mais c'est déjà quelque chose de se poser l'interrogation. C'est déjà quelque chose. Alors une fois que vous avez posé l'interrogation, vous revenez à l'expérience, vous revenez à l'être réel, parce qu'au fond, il n'y a que l'être réel qui est. Quand vous dites l'être, c'est comme un âme qui brève, c'est quelque chose de merveilleux, mais c'est pas plus que ça, c'est vrai, c'est l'intelligence qui ouvre, n'est-ce pas, et qui se dit qu'est-ce que c'est, point d'interrogation, qu'est-ce que c'est que l'être, je ne sais pas encore ce que c'est, alors je reviens à la réalité, et revenant à l'interrogation, à la réalité, j'induis, et je découvre le principe propre. Vous savez, ça met du temps, hein. On a bien une certaine saisie confuse, oui, très très confuse. Ce que les scolastiques disaient, l'ensin communi, on n'a jamais très bien su ce que c'était. C'est idée in communi, alors je sais bien, vous pouvez tout mettre là-dedans. C'est le sac qui reçoit tout, alors ce que dirait Macaire, c'est le sac dans lequel on met toutes les pommes de terre. Alors ça, c'est l'être. Vous c'est le sac qui contient toutes les pommes de terre. Les pommes de terre, c'était les étangs. Alors, c'est le sac qui contient toutes les pommes de terre. Alors, c'est évident, je peux dire ça, mais ça, c'est très imaginatif. Ça ne me fait pas du tout saisir. Il a dit ça ici, quand il m'expliquait ce que c'était que ça saisit d'être. Alors, il a dit le sac, c'est resté. Alors, proverbial, à partir de là, on a dit le sac de pommes de terre qui contient toutes les pommes de terre. Vous voyez ? Alors, c'est très vrai qu'il y a un certain concept d'être antérieur à toute induction. C'est pas le concept d'analyse. C'est un concept très confus. C'est pas le concept d'être. Pour que le concept d'être vraiment corresponde à la ratio entis, il faut passer à travers toutes les inductions et saisir les principes propres. Alors, à travers les principes propres, je saisis bien certaines raisons qui sont présentes dans ces principes propres. Donc, vous voyez comment on peut faire on peut préciser comme ça les différentes étapes. C'est difficile, mais c'est important à les préciser, je crois. C'est important à préciser ces diverses étapes où, de fait, on voit comment l'intelligence progressivement saisit quelque chose de la réalité au-delà des catégories. Parce que je reste tellement fixé aux catégories. Vous savez, la trouvaille d'Aristote des catégories a été une merveille, mais ça a été en même temps terrible. Parce que c'est propre à Aristote, les catégories. Et là, on est resté fixé là-dessus. Chez Platon, il n'y a pas les catégories. Alors, il y a une autre difficulté chez Platon. Il y a l'intuition immédiate de l'être. Tout de suite. Parce que dans ma vie intérieure, j'étais métaphysicien. Dans ma vie antérieure, quand mon âme était séparée, j'ai pas de trouver aussi. Rappelez-vous votre vie antérieure, tout simplement. Et à ce moment-là, vous êtes. Alors, il n'y a plus besoin d'induction. La réminiscence, comme ça, il n'y a pas de catégorie qui passe au tout. Ah, ça dit pas du tout. Nous sommes rivés à notre monde physique. Et notre monde physique, c'est le monde des catégories. Donc, il faut passer par les catégories. Il ne faut surtout pas rester prisonnier des catégories. Mais je suis obligé de passer par les catégories, je ne peux pas faire autrement. Je dois décrire un monde catégorial. Ce monde catégorial, il existe. Et la preuve, c'est que les catégories d'Aristote, au fond, personne ne les rejette. On les comprend différemment, mais personne ne les rejette. Tout le monde accepte les catégories. Ce qu'on n'accepte pas, c'est les principes propres. Ça, ce qu'on n'accepte pas, c'est l'induction, donc le dépassement des catégories. Mais les catégories, tout le monde accepte. Vous avez la manière phénoménologique de les saisir, vous avez la manière... Ça importe peu, et tout le monde les accepte. Tandis que le dépassement des catégories par l'induction, ça c'est autre chose. Et une fois que vous avez dépassé les catégories par l'induction, par les principes propres, alors vous pouvez réfléchir le contenu de ces principes propres. Et vous saisissez que ce contenu implique une certaine signification qui est un au-delà des catégories, et je dis les rationnels. Parce qu'il faut dire quelque chose. Oui.
Mais est-ce que pour entrer en métaphysique, on doit faire un double dépassement? D'abord, dépasser donc les catégories.
Plusieurs
dépassements. Trouver les deux concepts, puis ensuite dépasser le concept pour revenir à la lumière du principe propre à la réalité.
On fait 4 ou 5 dépassements. Sixième changement de vitesse. Voyez. Dépassement des catégories, premier, la phusis. Deuxième dépassement des catégories, là. Un autre dépassement des catégories, le bien. Vous voyez, je peux dire tous ces dépassements-là. Et la métaphysique est au-dessus de tout cela. Et je peux aussi dépasser tout de suite, y arriver tout de suite, à la pensée métaphysique. Je ne suis pas obligé de passer par tout là. Comme si on pouvait passer le changement de vitesse, hein. Tout de suite, dernier. Maintenant, on risque de caler de temps en temps. Le moteur risque de caler. Enfin, ben c'est pas assez chauffé, c'est quelque chose qui ne va pas. Alors il calme. Mais c'est vrai. Alors le double dépassement, c'est le double. La première chose, hein, les catégories, c'est au niveau de l'abstraction universelle. L'autre dépassement, c'est de découvrir par l'induction les principes propres. Vous voyez ? Ça, je dirais. Alors, se saisit des principes propres, il est divers, il est multiple. Mais c'est toujours par mode inductif que je saisis les principes propres. Donc vous diriez...
Moi, je pensais qu'il y avait encore un nouveau dépassement, dépasser le principe propre, dépasser les rationnels pour revenir à la réalité. Parce que si on reste dans les rationnels, on est au niveau du concept.
Faisons attention. Hein. Les principes propres sont au-dessus et je reviens à la réalité dans la lumière du principe propre. Oui, mais ce n'est pas un dépassement, c'est une application. C'est une projection. Vous voyez ? Au sens précis. Au sens précis, je reviens à la réalité. Tout à fait d'accord, je reviens à la réalité pour saisir le. Tout à fait. Mais je pourrais dire, vous voyez, avec vous, je pourrais dire, premier dépassement, l'interrogation. Deuxième dépassement, par l'induction, la saisie. Ça, je serais tout à fait d'accord. Vous voyez ? Premier dépassement, l'interrogation. Parce que déjà, l'interrogation est un dépassement. Et second dépassement, vrai, l'induction. Vous voyez ? Alors là, cette induction prendra des modalités différentes. Mais là, je suis tout à fait d'accord de dire que l'interrogation est déjà un premier dépassement. Vous voyez ? C'est déjà un premier dépassement. C'est un dépassement qui reste confus, c'est un dépassement qui n'est pas, qui est une attente. C'est pour ça que je dis, c'est un dépassement d'attente. Très curieux de voir combien l'inspiration est une attente. Toute inspiration est une attente qui demande une réalisation. Quelle est la réalisation propre ? C'est le travail, la réalisation. Quelle est la réalisation ? C'est l'induction. L'induction, c'est la phase travail pour la vie de l'intelligence. C'est la phase laborieuse où l'intelligence doit essayer, à travers l'opacité de la matière, découvrir les principes propres. Vous voyez ? Alors, elle illumine l'expérience par l'interrogation. Et l'interrogation illumine l'expérience en montrant que dans l'expérience, je ne regarde que cet aspect-là. Bon. Alors, il faut bien s'arrêter là, mettre un point d'ordre. On va pas aller plus loin, moi. On va voir encore, avant d'aborder la logique de la deuxième opération, parce que je veux avec vous aborder quand même la logique de la deuxième opération, et voir un peu la logique de la troisième opération. Il n'y a plus tellement de cours, je ne sais pas combien, vous allez compter. Parce que si vous faut de vous donner deux cours ou quatre cours de logique mathématique, si vous en avez besoin, moi je suis à votre service, hein, deux cours ou quatre cours, parce qu'il faut quand même situer un peu la logique mathématique, je crois que c'est nécessaire, il faut le faire. Alors on verra s'il faut mettre deux cours ou quatre cours, moi, ça m'est égal. Alors ça, je demanderai à M. Balmès de vous l'exposer, parce qu'il exposera avec plus de compétences que moi. Étant mathématicien, c'est toujours les matheux qui exposent le mieux la logique mathématique. Alors, il faut leur demander aux mathématiciens de donner ce que représente le point de vue de la logique mathématique. Alors, il vous donnera ce que représente la logique mathématique. Donc, après avoir vu l'universel univoque et l'universel analogique, revenons à l'unité, c'est-à-dire revenons à l'universel univoque. Et voyons comment l'universel univoque va nous permettre d'aboutir à la définition. C'est un moment important. Qu'est-ce que c'est que définir au sens propre ? Et puis, la division. Il y a deux problèmes qui sont annexes, qu'on traite d'une façon classique là. Et il n'y a pas de raison de ne pas les traiter là. Il y a deux problèmes là qui sont la définition et la division. La définition, on comprend bien. L'intelligence humaine a besoin de définir. Vous voyez, au fond, c'était le souci de Socrate de chercher un logos qui soit un orismos. Ça, vous comprenez tout de suite. Un logos qui soit un orismos, c'est-à-dire de chercher une raison, traduisez raison, logos, qui soit une définition. Donc un logos parfait, une raison parfaite. Quand vous définissez quelque chose, hein, quand vous définissez quelque chose, c'est très curieux, le besoin de définir, il y a des gens qui ont un besoin intense de définir, tant qu'ils n'ont pas la définition. Ça ne va pas. Ils ont besoin de définir. Le jeune Socrate, ou pas le vieux Socrate, mais le jeune Platon auprès du vieux Socrate, hein, parce que le jeune Socrate, sans doute, n'était pas tout à fait comme ça. On ne connaît que la fin des vies de Socrate. Donc le vieux Socrate avec le jeune Platon, c'est celui qui veut définir qu'est-ce que c'est que le courage, qu'est-ce que c'est que la piété. Regardez les premiers dialogues socratiques. Les premiers dialogues socratiques sont des dialogues qui veulent définir. On veut définir. Pourquoi l'intelligence humaine aime-t-elle de définir ?
vous ai demandé pourquoi. C'est une maladie. Elle besoin de comprendre avec précision et clarté. Au fond, c'est le besoin de précision et clarté. Vous voulez savoir exactement ce que c'est. Quand vous voyez quelqu'un qui emploie un mot dont vous ne comprenez pas tout de suite la signification, vous dites, qu'est-ce que ça veut dire? Définissez-moi ce mot. Définissez-moi ce que c'est que l'épistémologie. Définissez-moi ce que c'est que l'épistémologie. Tant que vous n'aurez pas défini ce que c'est que l'épistémologie, je ne peux pas comprendre. L'intelligence humaine a besoin de définir. Mais nous ne pouvons pas tout définir. Il y a certaines choses qu'on définit et d'autres choses qu'on ne définit pas. Et les meilleures choses ne se définissent pas. Alors, qu'est-ce qu'on définit, qu'est-ce qu'on ne définit pas? On définit tout ce qui est dans la ligne du genre. Définir au sens propre. Tout ce qui est impliqué dans un genre, tout ce qui est contenu dans un genre est définissable. Tout ce que mon filet prend, je l'appelle poisson. Hein? Mon filet, ici, c'est le genre. C'est un très grand filet, hein? De haute mer. Alors, le grand filet, de gros poissons, parce que les petits poissons passent à travers la mare. Alors, c'est des gros poissons. Alors, tout ce que mon filet prend, je l'appelle genre. Le genre, c'est le filet plus vaste. Alors, il y a le genre vivant. Il y a le genre animal. Il y a le genre... et ainsi de suite. Hein. Est-ce que vous pouvez dire qu'il y a le genre être? Non. Et pourquoi? Et pourquoi l'être est un peu de poisson tellement petit qu'il est passé. Et qu'il le dépasse tout. Il passe à travers. Il ne fait pas nombre avec le filet, c'est ça qui est tout à fait particulier. Oui. C'est que l'être n'implique pas de limite. Tout ce qui est dans un genre implique une limite. Le genre est fondamental. La question que se pose saint Thomas, et c'est très beau, est-ce que Dieu est dans un genre? C'est très très important. Vous voyez, quand saint Thomas dit Dieu n'est pas dans un genre, il nous montre que Dieu n'est pas dans une pensée qui est indépendante. Il n'est pas important. L'intelligence humaine, si elle reste fixée aux catégories que j'ai données. Mais où il n'est pas d'accord avec Kant, c'est que pour lui, le registre de catégories n'est pas le seul registre de l'intelligence. C'est le registre de la raison. Saint Thomas dit ratio intellectus. Ratio, c'est le registre des catégories. Donc, tout ce qui est dans un genre est définissable. Donc, tout ce qui est limité est définissable. Mais ce qui n'est pas limité, ce qui n'est pas limité n'est plus définissable. Et d'une certaine manière est au-delà du genre. Et donc n'est plus définissable. C'est pour ça que je ne peux pas définir l'être. Sauf quand l'être vient vers moi, comme un papier. À ce moment-là, je le définis. Vous voyez, autrement, je ne peux pas définir l'être. Personne ne peut définir l'être. Est-ce que je peux définir le bien? Non. Je ne peux pas définir le bien. Le bien ne peut pas être défini. L'un ne peut pas être défini. Les transcendantaux ne peuvent pas être définis. Ils sont au-delà des catégories. Et puis alors, il y a l'individu qui est ineffable. Le singulier et l'individu. Et donc, il ne peut pas être défini parce que l'individu n'est pas dans un genre. Donc, échappe au genre les deux extrêmes. Les réalités parfaitement déterminées et individuées, et puis ce qui dépasse en raison même de son extension. Le point de vue de l'être, le point de vue du bien, et ainsi de suite. Est-ce que la vie est dans un genre? Est-ce que la vie peut être définie? Qu'est-ce que vous diriez? C'est une question qu'un biologiste m'a posée une fois. Il nous faisons un grand congrès pour définir la vie. Alors j'ai souri, j'ai dit, vous me la direz, vous me la direz, la vie. qui me sont faites. Alors il me dit, pourquoi? Pour vous, on ne peut pas définir la vie. J'ai dit, non. On ne peut pas définir la vie. Je peux définir tel genre de vie. Tel genre de vie. Le genre de vie biologique. Je ne peux pas définir ce que c'est que la vie. Parce que la vie n'est pas liée à la vie biologique. Il y a la vie de l'esprit. Il y a l'amour. L'amour spirituel, c'est vie. Donc je ne peux pas définir ce que c'est que la vie. Tandis que je peux définir tel genre de vie, la vie biologique. Ça, je peux le définir. La vie animale, ça peut se définir. Parce que c'est dans un genre. Donc vous avez là tout de suite la clé. Hein. N'est définissable que ce qui est dans un genre. Ce qui est au-delà du genre, ou en raison même de son actualité ultime comme individu, ou en raison même de sa compréhension trop grande, ne peut pas être inclus dans un genre. Et donc, il est au-delà du genre, et il est indéfinissable. Donc, là, vous voyez les conditions pour être définissable. Les conditions pour être définissable, c'est impliquer d'être capable d'être contenu dans un genre. Dieu ne peut pas être contenu dans un genre, parce que Dieu n'implique aucune limite. Donc, je ne peux pas saisir Dieu avec une pensée catégorielle. Et si je reste enfermé dans un genre, je ne peux jamais atteindre Dieu. La définition va donc demeurer uniquement au niveau générique. Dès que je serai au niveau de l'universel analogique, je ne définis plus. Une notion analogique ne se définit pas et ne peut pas se définir. Elle implique quelque chose de trop vaste. Toutes les notions analogiques ne se définissent pas. Au sens rigoureux, elles peuvent se définir dans... Parce qu'il peut y avoir une même notion qui est générique et qui est analogique. Là, c'est la fin de ce, ça est très difficile. Enfin, je peux considérer la substance comme générique et je peux considérer la substance comme analogique. Si je considère la substance comme analogique, je la considère en tant que je réfléchis sur le principe selon la forme de ce qui est, la substance, saisie au niveau métaphysique. Alors à ce moment-là, la substance ne peut pas être définie. Si je regarde au contraire la substance en tant qu'elle fait partie des catégories, alors je dis qu'elle peut être définie. Donc certaines réalités peuvent avoir deux phases, une phase générique, une phase analogique. Sous deux aspects différents, c'est bien évident. Sous deux considérations différentes. Mais c'est la même réalité saisie sous deux aspects différents. C'est ça, la source de toute confusion. Et c'est comme ça. C'est que le langage n'est pas adéquat à la pensée. Le langage, forcément, il faut préciser sous quel aspect je regarde telle chose, pour employer tel mot. Bon, alors la définition, c'est pour essayer de clarifier. Mais la définition a un très grand danger, c'est qu'elle risque d'immobiliser l'intelligence. Ça, c'est le danger. Les gens qui aiment trop les définitions sont des gens qui ne veulent plus aller à la recherche. Ils ont défini quelque chose. Et les gens qui aiment trop les définitions restent dans une connaissance catégoriale, dans une connaissance univoque. Donc dans une connaissance limitée. Il n'entre pas dans la philosophie. C'est très intéressant comme petit test. On ne dirait rien avant d'entrer en faculté. On va passer un petit test. Aimez-vous la définition? Alors on verrait que ceux qui aiment trop la définition ne peuvent jamais pénétrer en philosophie. Je sais bien qu'ils peuvent toujours se corriger, parce que quelquefois ils ne peuvent très bien pas savoir ce que c'est que la définition. Mais si précis ce que c'est que la définition et qu'ils veulent toujours tout ramener à la définition, alors ils n'entrent pas en philosophie. Alors vous voyez, là vous touchez bien les limites d'une pensée qui n'est pas philosophique, puisque j'entre en philosophie dès que je saisis les principes propres. Or, les principes propres ne se définissent pas. Alors la division. La division est un procédé de l'intelligence très très curieux. Est très intéressant. C'est peut-être une des choses les plus intéressantes de la vie de l'intelligence, la division. L'intelligence aime de diviser. Elle aime de diviser. Elle aime de diviser pour définir. Parce que pour définir, il faut diviser. Vous comprenez pourquoi?
Le genre animal implique une potentialité. Il faut actuer cette potentialité pour pouvoir définir. Je définis en me servant du genre et du propre. C'est la tenaille, ça. C'est la tenaille de l'intelligence. Saisie. Elle s'appuie sur le genre, elle s'appuie sur le propre. Alors, le genre, c'est la donnée fondamentale, le propre, c'est la donnée spécifique. Et je me rapproche de plus en plus. Et donc, j'actue de plus en plus ce genre. Mais en actuant de plus en plus ce genre par le propre qui est de plus en plus propre, c'est du plus et du moins. Alors, je me rapproche de plus en plus et j'actue. Je sais la balance. Et quand je veux saisir pleinement, il faut d'une certaine manière que le genre soit parfaitement actué par le propre, ce qui n'arrive jamais. Sauf la définition de l'homme. La seule véritable définition, c'est la définition. Mais vous voyez que pour définir, je divise. Je divise le genre. Je divise le genre par le propre, par la différence spécifique. Alors, quel est ce procédé propre de la division? La division consiste à actuer. Et en actuant, je divise. On divise un tout en ses parties. Votre soi. Et quand vous divisez une tarte, parce que c'est ça, c'est là où vous avez appris à diviser en premier lieu, non? Vous divisez une tarte. Vous savez très bien ce que c'est que diviser une tarte. Vous divisez une tarte pour plusieurs raisons. Pour que tout le monde en ait. Mais on ne sait jamais si vous faites passer la tarte et qu'il y a quelqu'un qui a un estomac plus grand que ses yeux, c'est vrai que la tarte est très très bonne, il faudra un morceau énorme. Les autres auront beau loucher, ne diront rien, mais la tarte. Alors je divise pour que chacun en ait une partie. C'est très curieux comme procédé de division. C'est vraiment pas très poli de diviser. Hein. Ça veut dire, vous êtes des gourmands, alors j'aime mieux diviser le moteur tarteuse, pour être plus sûr, hein. C'est un bien petit, n'est-ce pas, pour être plus sûr, j'anticipe, hein. Alors je vous partage et je donne ça. Alors je divise pour être sûr que tout le monde en ait une partie. Donc la division peut être pour la paix. Hein? Chacun a sa partie. Comme ça, tout le monde. On divise un héritage. Quand le grand-père n'a pas divisé l'héritage, les dents des petits-fils grincent. Toujours comme ça. Parce que l'héritage, il peut être divisé de diverses manières. Et alors les uns veulent ceci. Tandis que quand il est bien divisé, on reconnaît. Il est divisé. C'est curieux que la division pacifie. Toujours. Elle pacifie l'intelligence. Un tout potentiel, quand il est divisé, il est donc actué. Il n'y a plus l'aspect de potentialité qui est source de toutes les angoisses. Curieux, c'est très très intéressant de voir ça. Parce que c'est important de voir ça. Quand vous voyez quelqu'un qui est angoissé, divisez-le en petits morceaux, et vous arrivez à supprimer son angoisse. Non? Puisque c'est la division est un procédé qui supprime l'angoisse. Il faut diviser en petits morceaux, puis alors vous arrivez, vous canalisez comme ça. Parce que quand il n'est pas canalisé, il reste indéterminé. Alors il faut le diviser. Quand l'intelligence est en face du tout générique, elle est angoissée. C'est le gouffre. Je divise. Donc la division, c'est un procédé de l'intelligence. Procédé de l'intelligence. L'intelligence divise pour clarifier, pour déterminer. Pour actuer. C'est en ce sens-là que l'intelligence, en divisant, supprime les angoisses. C'est beau la division, c'est très très grand la division. Alors la division peut se faire de multiples manières. Là-dessus, ce serait très intéressant. Regardez les différentes manières dont la division peut se faire. Je ne vais pas vous nommer, j'avais hésité de vous donner
Vous savez, c'est très simple. Hein. La qualité des tout va impliquer les diverses divisions. Alors, il suffit d'en voir quelques-uns. Alors, je vous donne avant un exemple. Le poulet. Il y a deux manières de le diviser. Avec un sécateur, à vous couper dedans. Vous faites des petits tronçons. Alors, ça dépend où vous vous situez, hein, c'est évident. Hein. Il y a la queue qui reste, le croupion qui reste, les dernières divisions, vous voyez, puis alors les autres parties, la tête. Vous divisez avec un sécateur. Manière très peu élégante, hein, mais c'est très rapide. Et puis vous divisez en coupant le poulet, organiquement, comme nos grands-mères savaient le faire. Vous voyez, aujourd'hui, on ne sait plus, on va aller trop vite, on va aller beaucoup plus vite. Vous voyez, alors, vous divisez, c'est très, les scies électriques, hein, ça divise, c'est bien évident. C'est curieux, ça. Qu'est-ce que ça correspond? Quand on voit un poulet coupé d'une manière régulière par un sécateur, ça vous fait grincer des dents, si vous êtes un peu sensible pour le poulet. N'est-ce pas? Ça vous fait grincer des dents, parce que vous dites ça quand même, non. Le poulet est un tout organique, hein, et vous le découpez comme un tout quantitatif. C'est quand même l'avantage. Il y a deux tout. C'est très curieux, il y a deux tout. Il y a un tout organique. Le vivant est un tout organique. Je sais bien que le poulet, quand on le découpe, il n'est plus vivant. Je le sais. Mais c'est quand même le corps du poulet qui est équivoquement le corps du poulet. Donc, il reste quand même un tout organique. Si vous le découpez assez vite. Hein. Et si on l'a cuit assez vite. Parce qu'autrement, la dégénérescence fait que le tout organique n'existera plus beaucoup. Chacun partira de son côté. Alors à ce moment-là, le tout organique n'existera plus. Mais si le tout organique est encore tout organique, il demande d'être divisé comme un tout organique. Et puis il y a le tout quantitatif. Le tout quantitatif, c'est tout à fait autre chose. Il n'est pas organique. Alors le tout quantitatif se divise en parties intégrantes. Être égal, partie intégrante. Le tout organique, il ne se divise pas en partie intégrante. Il se divise en partie organique. Ça ne peut pas être autrement. Mais je m'amuse là-dessus, hein, et ça, vous pouvez tous comprendre ça. Hein. C'est un très bel exemple digne d'Aristote. Et le sécateur n'existait pas encore, alors, ou la scie électrique n'existait pas encore, mais enfin, nous pouvons prendre ça. Voyons très bien. Alors, réfléchissez un tout petit peu. L'universel est un tout. Alors, est-ce que vous n'avez pas les deux types d'universel ? L'universel, univoque. L'universel, analogique. Ah, comment ça respire ? Vous voyez bien, l'exemple était était fait pour que vous compreniez. L'universel univoque, c'est un universel quantitatif. L'animal. Parce que l'animal réduit à sa plus simple expression, c'est pas un grand verre. Vous le coupez. Et puis ça fait des petits verres, ça multiplie les vivants. C'est extraordinaire, si les portions sont assez grandes. Alors vous voyez, le tout quantitatif, c'est l'universel univoque. L'universel univoque se comporte comme un tout quantitatif. Vous le divisez. De l'extérieur. Vous divisez de l'extérieur, exactement comme le tout quantitatif, comme la tarte. La tarte, elle ne se divise pas d'elle-même. Hein. Elle se divise comme un tout quantitatif. La couper. Alors ça, c'est l'universel univoque. Et vous le coupez de l'extérieur. Tandis qu'au contraire, l'universel analogique, il se divise de l'intérieur. Un tout organique. C'est une image, hein, faisons attention, c'est une image. Mais c'est une image qui implique une petite analogie, une petite comparaison, qui nous fait tout de suite comprendre sa d'immenses conséquences, vous savez ça, quand vous voyez ça, sa d'immenses conséquences. Parce que, quelle est l'âme de la dialectique? L'âme de la dialectique, c'est la division. Alors, dans la dialectique, est-ce que j'ai une division? D'un type organique.
grave question. Vous voyez ? Et c'est la quatrième question qu'il faut se poser. Où est-ce que j'ai une mixture des deux ? Il faut se poser la question. C'est très important de savoir si je suis devant un tout organique ou un tout univoque. Alors, on ne résout pas maintenant, je pose totalement la question. On ne peut pas le résoudre maintenant, parce que nous y reviendrons si nous avons le temps, en regardant le raisonnement et en regardant le raisonnement dialectique. Je ne peux pas le résoudre maintenant. Mais je pose la question. Il y a diverses manières de diviser. Et la division est l'âme de la dialectique. Ça, je crois vraiment. La division se fait par la négation. Je divise en niant. C'est comme ça que je divise le mieux. Ça implique toujours une division. Toute division implique une négation. Toujours. Je ne peux pas diviser sans nier. Mon intelligence devient extrêmement percutante lorsqu'elle nie. Alors, par la négation, mon intelligence divise. Vous voyez ? Alors, la négation permet toujours de diviser. Parce que quand je divise un image, je prends un exemple pour que vous voyez bien. Quand je divise un image, je suis donc en face d'un tout quantitatif animal. Je dis animal raisonnable, animal non raisonnable. Vous voyez comment je divise animal non raisonnable. Il y a donc toujours la négation qui est présente dans toute division. Si je divise animal en raisonnable, parce que quand je mets uniquement raisonnable, je l'actue, mais je divise animal en raisonnable et non raisonnable. Je divise animal en animal à deux pieds et animal plus que deux pieds, n'ayant pas seulement deux pieds ou n'ayant qu'un pied. Et ainsi de suite. La négation est toujours présente. Également, dans le tout organique, qui est le tout analogique, alors je prends le concept d'être, ce tout analogique va se diviser en res, un liquide, et ainsi de suite. Verum et bono, ils se divisent, mais ils se divisent organiquement, de l'intérieur. Et cette division organique implique elle aussi une division. Parce que précisément, l'un, c'est l'être qui n'est pas divisé. Un liquide, c'est l'être qui se distingue des autres, qui n'est pas confus avec les autres, qui a sa propre dignité, et ainsi de suite. Donc la division est peut-être moins immédiatement présente dans la division d'un tout organique, donc dans l'universel analogique, puisque c'est de l'intérieur qu'il se divise. Et de l'autre côté, c'est l'extérieur. Quand on divise de l'extérieur, la négation est beaucoup plus forte. Quand on divise de l'intérieur, quand de l'intérieur le tout organique se divise, la division est beaucoup moins forte. Parce que c'est de l'intérieur qu'il se divise. Mais la division est toujours présente. Alors la question qui se pose, c'est de savoir, est-ce que toute division implique une négation ? Je crois que toute division implique une négation. Nous y reviendrons en voyant ce que c'est que le problème de la négation. Et ce qu'il faut saisir ici, c'est qu'il y a ces deux grands procédés de l'intelligence. Le procédé de l'intelligence qui essaie de diviser pour arriver à la définition. Et je n'arrive à la définition que ce qui implique un genre. Alors vous réfléchirez là-dessus, et si vous avez des questions, vous le direz.